Nous avons parlé de la problématique des enseignants, des prêtres, de la transmission de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, d'une autre catégorie de la population, que sont les chefs politiques. Nous allons parler géopolitique. Et avant de lire le passage, qui pourrait vous paraître un peu obscur si vous n'avez pas d'explication, eh bien nous allons faire un petit moment de rattrapage géopolitique. Vous vous rappelez, hein, Israël au nord, Juda au sud, et ici vous avez le royaume d'Aram, le royaume de Syrie, avec pour capitale Damas. Vous avez des montagnes et un désert, personne n'y passe, mais un peu au-dessus, vous avez des grands royaumes comme le royaume d'Assyrie, avec pour capitale Ninive, et puis plus tard vous aurez l'empire de Babylone, et au sud, il y a un grand empire aussi, qui est l'Égypte. Et pour aller, s'ils ont envie de se faire la guerre, hein, les deux grands empires, devinez par où ils passent. Ah, par Israël et par Juda. Ou, s'ils veulent se faire la guerre ou s'ils veulent un petit peu de richesse, enfin si on, ils ont envie d'envahir un pays, eh bien ils vont plutôt aller par ici. Vous avez la Syrie qui est là, hein, avec pour capitale Ninive. Et voilà, vous avez la route naturelle, c'est celle-là, voilà. Hop. Et le problème, c'est qu'à l'époque d'Osée, l'empire qui monte, l'empire qui fait du bruit, l'empire qui sème la terreur autour de lui, qui se dilate, qui grandit, eh bien c'est la Syrie. Et on commence un tout petit peu à paniquer dans le royaume d'Israël et même dans le royaume de Syrie, avec pour capitale Damas, en se disant il va quand même falloir qu'on fasse quelque chose parce que cet empire prend tellement de place qu'il va finir par venir chez nous et nous envahir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? S'il veut nous envahir. Est-ce que, on se laisse faire ? Est-ce que on paye cet empire-là pour qu'il nous laisse tranquille ? On lui verse une sorte de tribut avant même qu'il ait combattu contre nous ? Ou est-ce que finalement, on commence à se préparer militairement parlant pour le combattre ? Mais vu qu'il est très puissant, on va pas le faire avec un seul royaume. On va essayer de s'unir. Et l'idée que certains ont, par exemple en Israël, c'est de s'unir avec La Syrie. Le royaume d'Israël est assez puissant à cette époque, a pas mal de soldats, pas mal de chars. Et la Syrie et Israël pensent à s'allier. Et puis, en fait, ils se disent, mais ce serait bien qu'on soit trois. Et si on demandait à Juda de venir avec nous ? Mais Juda n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui va se passer ? Et le problème, c'est on sait un peu ce qui s'est passé, c'est que Aram et Israël vont faire une coalition, monter une coalition pour attaquer Juda et forcer Juda à être avec eux pour combattre les Assyriens. C'est ce qu'on appelle la guerre Syro-Éphraïmite. Syro comme la Syrie, Éphraïmite comme Israël. Vous savez, je vous l'ai dit hier, Israël et Ephraïm, c'est interchangeable. Et donc, ils vont avoir l'idée de faire la guerre au voisin Juda. Et pour faire la guerre au voisin Juda, ils prennent une route qui est la route. Cette route-là, qui passe par Bethel, par Rama, par Gibea, qui n'est pas sur la carte là, pour après envahir Jérusalem, si possible, et contraindre le roi en place, ou le renverser et mettre un roi fantoche à sa place, qui participera à cette coalition éventuelle contre la Syrie. Et donc, les versets que nous allons lire commencent avec ces villes-là, qui sont toutes sur le territoire de Benjamin, la tribu de Benjamin, qui est la tribu frontalière entre Israël et Juda. Donc, on va commencer à lire maintenant, qu'on a fait ce petit tour d'horizon. Donc, on est dans Osée 5, à partir du verset 8. Sonnez du cor à Gibea et de la trompette à Rama. Donnez l'alarme à Beth-Aven. Benjamin, garde tes arrières. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'en fais l'annonce aux tribus d'Israël, et cela est certain. Les princes de Juda sont devenus pareils à ceux qui déplacent les bornes. Aussi, comme un torrent, je répandrai sur eux les flots de ma colère. Éphraïm sera écrasé et brisé par le jugement, car il veut se conduire d'après ses propres règles. C'est pourquoi je serai pour Éphraïm comme la teigne, et pour Juda comme la vermoulure. Quand Éphraïm a vu son mal et Juda son ulcère, Éphraïm est allé chercher de l'aide en Assyrie. Et il a envoyé un message au roi batailleur. Mais le roi assyrien ne pourra vous guérir ni soigner votre ulcère. Car moi, je serai comme un lion pour les Éphraïmites et comme un jeune lion pour les gens de Juda. Moi, oui, moi, je déchirerai. Et puis je m'en irai, j'emporterai ma proie et nul ne les délivrera. Alors je m'en irai, je rentrerai chez moi, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et cherchent ma faveur. Alors, dans leur détresse, ils rechercheront ma présence. Jusqu'ici cette première partie. Donc je vous rappelle, on parle de Rama et Jérusalem. De cette guerre syro-éphraïmite qui guette. Le fait de sonner du cor, bah c'est parce que justement il y a la guerre qui arrive. On sonnait du cor soit pour les fêtes religieuses, soit pour signaler qu'il y a la guerre. Et quand on lit ce passage, on voit que c'est un peuple qui n'a rien compris à ce que Dieu lui disait. Ce qu'il leur est reproché à ce peuple, au verset 10, c'est que c'est un peuple qui veut vivre selon ses propres règles. Un peu du « ni Dieu ni maître » avant la lettre. Je veux vivre selon mes propres règles. Je ne veux pas demander à Dieu avant de faire des choses, avant de prendre des décisions politiques. Au verset 10, ça concerne Juda. Au verset 11, ça concerne Israël. Donc c'est une prophétie qui est pour les deux frères ennemis. Ils veulent chercher de l'aide par eux-mêmes, sans compter sur Dieu. Il y a un danger, on va tenter un petit coup, on va tenter une tactique pour s'en sortir. On ne pense même pas à Dieu comme un recours éventuel. Et la tactique qu'ils emploient, je vous l'ai un petit peu décrite, c'est les jeux géopolitiques, de rentrer dans la politique internationale. Et c'est toujours très valorisant de se dire, voilà, nous allons faire partie des grands de ce monde. Un peu comme aujourd'hui, où par exemple, là, à droite, on a la Russie, à gauche, on a les États-Unis, nous, la France, nous avons une certaine importance, nous, le tout petit pays. C'est sympa, c'est valorisant. On se dit, voilà, on va pouvoir faire quelque chose. Pour Israël, c'est un peu ça. Mais bien sûr, ils ont compris qu'ils étaient un peu petits, donc ils essaient de se coaliser avec les autres. Et il y a deux options un peu opposées qui sévissent dans le royaume d'Israël. Ceux qui ont envie de payer la Syrie, comme je vous l'ai dit, de se dire, bah voilà, on va s'en faire des copains, comme ça ils vont pas nous combattre. Et puis ceux qui veulent combattre la Syrie. Et je vous ai parlé de la guerre syro-éphraïmite. Quand Aram et Israël attaquent Juda, que va faire le roi de Juda? Alors que le prophète Ésaïe lui dit, reste calme, tout va bien, Dieu va vous délivrer. Qu'est-ce qu'il fait le roi de Juda? Eh bien, il passe un coup de téléphone à l'empereur assyrien pour lui dire « Je te paye très très cher, mais tu viens me délivrer des autres là. » Donc, il téléphone aux païens pour qu'il le délivre de ses frères, en tout cas d'Israël et d'Aram. Donc, vous voyez, on avait souvent recours à ce genre de jeu géopolitique. Quand on était embêté, on appelait une puissance supérieure pour qu'elle vienne à notre aide. Mais le problème, bien sûr, c'est que la grande puissance, la superpuissance, quand elle venait en aide, c'était pas gratuitement. Il fallait payer un lourd tribut, un lourd tribut qui n'était pas en une fois, qui était après à vie. Ou en tout cas jusqu'à ce que la superpuissance s'écroule. Et du coup, ça ponctionnait fortement le trésor public, si vous voulez. Et là, en l'occurrence, c'est un peu le trésor du temple. Mais voilà, ils cherchent comme ça à s'en sortir par eux-mêmes. Et c'est là où ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que, je vous rappelle que Dieu, dans la loi de Moïse, leur déconseille fortement de jouer à ce jeu-là. Parce qu'ils doivent avant tout lui faire confiance, et pas faire confiance en leur propre force. La suite, au chapitre 6, les 6 premiers versets. Je vous rappelle que le verset précédent, Dieu dit qu'il va les châtier jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et cherchent sa faveur. Et voyons comment les choses évoluent au chapitre 6. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous son regard. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Comment te traiterai-je, toi, Éphraïm, et toi, Judas, comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. C'est pourquoi je vous ai frappé par les prophètes, je vous ai massacré par mes paroles, et le jugement a fondu sur vous comme l'éclair. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Quand on lit les premiers versets du chapitre 6, on se dit, ils ont enfin compris. Ils se repentent. Enfin, ils se disent, ah, Éternel, viens à notre aide. Ils reconnaissent que le châtiment, eh bien, il est mérité. Ils comprennent la leçon et ils retournent vers leur Dieu. Mais la suite nous montre qu'on a affaire à des girouettes, à des gens qui changent d'avis selon le sens du vent. Et nous rappelons, je vous rappelle que hier, on a vu que c'était un vent de prostitution qui les animait, ces girouettes. On a affaire ici à des belles paroles, à des beaux sacrifices, de louanges, ou peut-être qui retournent à des sacrifices vers l'Éternel. Mais on voit que c'est quelque chose qui est futile, puisque Dieu leur dit, c'est un petit peu comme la rosée du matin. Ça existe, et puis ça se dissipe très vite, ça disparaît, aussi vite que c'est venu. Dieu ne les croit pas. Dieu ne les croit pas. Il leur dit même qu'ils sont totalement hypocrites. Alors bien sûr, j'imagine qu'ils croient à ce qu'ils disent au moment où ils le disent. Mais on va dire 5 minutes après, ils n'y croient plus, ils sont passés à autre chose, un petit peu comme de jeunes enfants qui sont très persuadés que ce qu'ils disent est vrai, et puis ils peuvent se contredire 5 minutes après sans voir du tout le problème. Et Dieu leur dit, puisque justement je vois que vos convictions se dissipent super vite, et bien j'ai envoyé des prophètes. J'ai vraiment fait en sorte que, vous compreniez ma parole. Et il leur dit avec des mots très forts, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Puisque vous n'avez pas compris, ben je vous ai fait un peu mal, quoi. Mais en fait, à chaque fois que vous revenez, c'est justement parce que vous êtes un peu dos au mur, vous êtes acculé. Mais à partir du moment où l'étau se dessert, vous repartez dans vos anciens problèmes. Et le verset qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, que Jésus cite avec les pharisiens, c'est que les rapports que Dieu veut avec son peuple, c'est pas des rapports de sacrifice. Il leur dit, mais si je vous ai donné une fessée, c'est pas du tout pour que vous veniez me faire plaisir comme ça, en disant, oh là là, on va essayer d'arranger les choses, et puis après être tranquille et recommencer. Les rapports que Dieu veut, c'est des rapports de repentance. Je prends plaisir à l'amour plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Le sacrifice est consumé par le feu. C'est l'amour, l'amour et la connaissance de Dieu qui compte. Et là, on retrouve aussi une thématique d'hier. C'est pas les actes, même si les actes sont importants, mais ça commence avec l'amour et la connaissance de Dieu. Et ça, les Israélites ne l'ont pas compris. Passons à la suite, verset 7, et après on enchaînera sur le chapitre 7 aussi. Mais vous, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance. Là, vous m'avez trahi. Galaad est une cité de malfaiteurs, maculée de traces de sang. Comme une bande de brigands postés en embuscade, la confrérie des prêtres s'en va assassiner les passants sur la route qui mène vers Sichem. Leur conduite est infâme. J'ai vu d'horribles choses en Israël car la prostitution d'Éphraïm s'y étale. Et Israël s'en est souillé. Pour toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Au moment même où j'ai voulu changer le sort de mon peuple Israël et le guérir, les péchés d'Éphraïm et les actes mauvais commis par Samarie ont été révélés. Car ils ont pratiqué la tromperie. Le voleur s'introduit jusque dans les maisons et dans les rues, des bandes de brigands dépouillent les passants. Ils ne se disent pas que moi, je tiens des comptes de tout le mal qu'ils font. Maintenant, leurs méfaits de partout les enserrent et je les garde présents à l'esprit. Au travers d'Israël, Osée dépeint la condition humaine. Et il le fait en commençant par Adam. Il dit à Israël, depuis Adam, c'est comme ça, et en fait, vous au départ, le plan, c'était que vous soyez pas comme ça. Le plan, c'était que vous soyez un peuple différent des autres peuples. Vous êtes comme Adam. Et il le fait avec une image assez intéressante, avec les prêtres. Vous avez vu ce que font les prêtres ? Les prêtres, ils sont au bord des routes, et ils vont massacrer, ils vont assassiner les passants qui vont vers un sanctuaire qui s'appelle Sichem. Et certains pensent que c'était un sanctuaire qui était resté fidèle à l'Éternel, qui n'avait pas sombré dans l'idolâtrie. Et en fait, pour les gens qui voulaient rester fidèles à l'Éternel et qui allaient à Sichem, il y avait des prêtres qui étaient, eux, passés de l'autre côté, des prêtres idolâtres, qui les attendaient pour les attaquer, pour les empêcher d'aller au vrai sanctuaire. Vous avez rompu l'alliance Israël, et ça se caractérise avec ces actes odieux des prêtres. Vous êtes comme Adam. Tout le peuple est corrompu. Personne ne veut revenir à Dieu. Et voilà comment ça se traduit. J'ai répertorié en fait les reproches qui sont faits à Israël. Ce qu'ils font, ce sont des crimes, des actes de violence, des assassinats, de la prostitution. Ils sont malhonnêtes et ce sont des brigands. Belle ambiance en Israël. Après l'espèce de fièvre idolâtre d'hier, eh bien là nous avons aussi toute la palette du déchaînement, de la violence, du fond de l'homme qui sommeille dans le fond de l'homme, de sa mauvaise nature. Et à la fin de cette partie, au verset 2 du chapitre 7, Dieu leur dit, mais ils n'ont pas compris que je les regardais. Ils n'ont pas compris quand même que moi je tiens des comptes de ce qu'ils font. Alors je ne pense pas que les Israélites pensent que Dieu ne les voit pas. Je pense que les Israélites pensent que s'ils font un certain nombre de sacrifices, un certain nombre de rituels, c'est effacé, on peut recommencer. Alors on attend de remplir l'ardoise, et puis après on efface l'ardoise, et on se dit, bah c'est bon, je peux commencer à écrire, quoi. Et Dieu leur dit, mais vous n'avez pas compris que si vous ne changez pas, moi je tire des comptes, que je vous vois, et que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vos sacrifices ne suffisent pas. Je vois très bien que dans votre cœur, vous n'avez rien compris. Donc, vous êtes vus, et vous êtes connus. La suite au verset 3. Par leur méchanceté, Ils amusent le roi, et par leur tromperie, les princes. Tous, ils sont adultères, brûlants comme le four du boulanger qu'il n'a nul besoin d'attiser depuis qu'il a pétri la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement levée. Au jour où on fête leur roi, les princes se rendent malades, échauffés par le vin, et le roi tend la main à ses moqueurs. Il s'approche de lui, le cœur embrasé comme un four, brûlant pour leur complot. Toute la nuit, leur fureur sommeillait, mais au matin, elle s'embrase comme une flamme ardente. Tous ils sont échauffés, tout comme un four, ils consument leur chef, et tous leurs rois sont renversés, sans qu'aucun parmi eux ne fasse appel à moi. Lao Tzu décrit une instabilité politique qui commence avec des beuveries. Les riches en Israël sont de plus en plus riches. On l'a déjà dit, c'est une période de faste, c'est une période de prospérité pour le royaume d'Israël. Et les riches n'ont jamais été aussi riches. Et donc il y a de superbes fêtes à Samarie. Mais on voit que pendant ces fêtes, on fait la bringue, mais en même temps, on complote contre le roi. On a une instabilité politique qui est là. Et donc vous avez un certain nombre de complots qui se passent en Samarie. Et donc j'en reviens à ma petite frise que vous trouvez sur creusonslavie.fr. Pour vous dire que je vous rappelle qu'on est sous Jéroboam II et qu'après il y a donc, après Jéroboam II, il y a Zacharie, Shalom. Déjà, le fait qu'il règne un mois, ça devrait vous aiguiller. Menahem et Pekahia, seulement 12 ans pour deux rois. Bizarre. Et Peka, et enfin le dernier, Osée, seulement 16 ans. Durant les 21 ans, à partir de Zacharie, qui va succéder à Jéroboam II, durant ces 21 ans, jusqu'à la chute de Samarie, 6 rois se sont succédés sur le trône, dont 4 qui ont été assassinés par leurs successeurs. Donc Zacharie, Shalom, Pekahia et Peka ont été assassinés par leur écuyer, une personne qui fait partie de leur cour. Peut-être même pendant ces fêtes, on ne sait pas trop, là, pour le coup. Certains pensent que Osée parle peut-être d'une situation qui s'est réellement passée, genre, il y a un roi qui a été assassiné par un boulanger, parce que Osée prend l'image de la pâte qui est dans un four. Mais je pense plutôt que Osée décrit l'état du cœur des dirigeants du pays, qui est complètement surchauffé, vous voyez, il y a une sorte de fièvre pour prendre le pouvoir. Alors que le royaume va tomber dans quelques années, donc ça leur fait une belle jambe de prendre le pouvoir. Mais vu que c'est un royaume riche, ils ont envie de le prendre, le pouvoir. Verset 8. Éphraïm se confond avec les autres peuples. Éphraïm est pareil à la galette qu'on n'a pas retournée. Des gens venus d'ailleurs ont épuisé sa force sans qu'ils s'en aperçoivent. Déjà les cheveux blancs lui garnissent la tête sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Malgré tous ses malheurs, eux, ils ne sont pas revenus à l'Éternel leur Dieu, et ils ne se sont pas tournés vers lui. Éphraïm est semblable à un pigeon naïf qui n'a pas de cervelle. Il appelle l'Égypte à l'aide, il va en Assyrie, mais pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui, et je le fais tomber comme un oiseau. Je le corrigerai lorsque je l'entendrai se rassembler. Malheur à eux, car ils m'ont fui. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Moi, je les délivrerai bien. Mais eux, ils tiennent à mon sujet des propos mensongers. Quand ils gémissent sur leur couche, ils ne crient pas vers moi du fond du cœur. Quand ils se font des incisions pour du blé et du vin, de moi, ils se détournent. Moi, je les instruisais, je fortifiais leurs bras, mais ils n'ont envers moi que de mauvais desseins. Ils ne reviennent pas vers le Très-Haut. Ils sont tous devenus comme un arc qui serait faussé. Aussi leurs chefs tomberont par l'épée à cause de leurs propos insolents, et l'on rira d'eux en Égypte. Jusqu'ici notre lecture du passage d'aujourd'hui. Nous avons affaire à des pigeons sans cervelle. J'apprécie beaucoup cette métaphore. C'est toujours intéressant. Dieu leur reproche tout d'abord d'être comme les autres peuples. Vous imitez ceux qui sont autour de vous. En voulant participer au grand concert des nations, vous voulez les imiter. C'était déjà prévu dans la loi de Moïse. Moïse les avait déjà prévenus en disant « Ne jouez pas à ces jeux-là, sinon vous allez côtoyer leur Dieu. » Parce que faire alliance avec un peuple, c'est faire alliance avec ses dieux. C'est risquer l'idolâtrie. Et on voit que le risque est largement dépassé avec Israël. Et en plus, le fait de faire alliance avec d'autres peuples, comme la Syrie ou l'Égypte, selon, eh bien, ça les détruit à petit feu, à cause des tribus qui sont en train de payer. Ils se disent, ouais, on est en sécurité, grâce à l'argent qu'on leur donne, mais en même temps, ça vide les caisses, ça fait qu'ils ne sont plus libres du tout. Mais ils préfèrent ça, plutôt que de revenir à l'Éternel. C'est ça le plus triste. L'Éternel dit, moi j'aimerais bien vous délivrer, je voudrais vous délivrer, comme avant. Mais ils ne veulent pas. Au verset 10, malgré les malheurs que Dieu leur envoie, ils ne crient pas vers lui. Ils ne crient pas vers lui, c'est au verset 14 qu'il le dit aussi. Ils ne reviennent pas, verset 16. Ils ne comprennent pas les signaux, ils ne comprennent pas que leur politique ne mène à rien. Que ça va aller vers le malheur. Et quand l'Éternel dit « Vous êtes des pigeons sans cervelle », c'est mais réfléchissez deux secondes. Ça n'a aucun intérêt de faire ce que vous faites. Revenez à moi et vous allez voir que ça marchera beaucoup mieux. Réfléchissez. Mais puisqu'ils ne réfléchissent pas, ils connaîtront le sort. Le même sort que les autres peuples. Puisqu'ils veulent être comme les nations, ils vont finir comme les nations. Alors qu'au départ, je vous rappelle, le grand royaume d'Israël devait durer très très longtemps, genre éternellement. Il s'est déjà séparé en deux avec le royaume du Nord, mais à Jéroboam 1, hein, le premier roi d'Israël, Dieu avait promis, hein, je rendrai ton trône inébranlable comme celui de David, hein, si tu me restes fidèle, mais très très vite, il est devenu infidèle. Et donc, ça va se terminer en 722, comme vous l'avez vu sur la frise, où l'Assyrie va envahir Israël, détruire Samarie et déporter une partie de la population. Alors une fois qu'on a décortiqué ce passage, la question qu'on peut se poser, parce qu'à mon avis il y a la thématique de l'alliance qui est présente dans ce passage, l'alliance dans le sens relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quels doivent être nos rapports avec notre Dieu. Et on a le joli contre-exemple d'Israël qui peut nous servir. Et en plus, notre connaissance de la loi de Moïse, en tout cas la vôtre, parce que je suis sûr que vous méditez la loi de Moïse assez régulièrement. Qu'est-ce que l'alliance avec Dieu? Tout d'abord, c'est une alliance non commerciale. Le but de l'alliance, c'est pas de faire des trucs, ce n'est pas de faire des rites pour être sauvé, comme s'il fallait juste se contenter de formules magiques qui effacent l'ardoise et qui donnent le droit de pécher encore plus. Une alliance commerciale, c'est un peu, bon, c'est bon, Dieu nous demande de faire des trucs, on les fait, et puis après on peut faire enfin ce qu'on veut, quoi. C'est pas du tout une alliance commerciale. C'est une relation d'amour. Dieu se fiche de nos bonnes actions. Enfin, il est content quand on en fait, hein, mais c'est pas ça qu'il veut en premier. Dieu, ce qu'il veut, c'est être en contact permanent avec nous. Pour nous transformer, petit à petit. Il peut pas nous transformer si on n'est pas en contact avec lui, même si on fait des trucs super. Dieu veut avoir une vraie relation d'amour avec nous. Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice. À la connaissance de Dieu, bien plus qu'aux holocaustes. Vos bonnes actions, c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas ça qui va vous sauver. Je pense que Dieu préfère quelqu'un qui chute souvent, mais qui revient à lui et qui veut vraiment progresser et qui veut revenir donc qui veut revenir à lui, plutôt que quelqu'un qui n'a pas grand-chose à se reprocher, qui fait un peu tout bien, mais qui finalement en fait ne veut rien avoir à faire avec lui et qui veut se sauver lui-même. Et enfin, l'alliance avec Dieu, c'est une alliance exclusive. En sortir, c'est périr. Et en fait, les Israélites, ils se disent, bon, on a un Dieu, c'est cool, mais si on en a plusieurs, c'est encore mieux. Voilà, c'est comme si, je sais pas, vous souscriviez plusieurs assurances. Vous dites, au moins, je suis super couvert, quoi. Enfin, s'il m'arrive un truc, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent qui va m'arriver, quoi. Mais c'est pas comme ça, l'alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et en fait, c'est le pur respect de nos cerveaux qui fait que nous sommes monothéistes. Parce que le polythéisme, c'est une sorte de délire où on s'invente des dieux comme ça, à notre image. Alors qu'en fait, si on respecte notre cerveau, il faut réfléchir. Et Dieu nous dit, mais il n'y a que moi, alors arrêtez d'en chercher d'autres, il n'y a que moi. Et en plus, je suis le meilleur. Et en fait, quand on dit ça comme ça, on se dit, ah ouais, c'est vrai, quoi, enfin, pas de relation commerciale, ouais, bien sûr, on veut des relations d'amour avec Dieu, et bien sûr, c'est complètement stupide de se tourner vers d'autres dieux. Mais en fait, la question que j'ai à nous poser ce matin, c'est qu'est-ce qui nous sécurise? Où est-ce que nous plaçons notre sécurité? Voici la pyramide de Maslow, la fameuse. Et les besoins les plus primaires finalement de l'homme se trouvent en bas de la pyramide et au sommet, ben voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais déjà, les besoins primaires des hommes, c'est là les besoins physiologiques, manger, dormir, avoir le wifi. J'en vois pas d'autres, mais bon, peut-être qu'il y en a d'autres. Boire de l'eau, avoir de l'eau, oui, c'est vrai. Avoir un toit, c'est bien, oui. Ben, ça va avec le wifi, c'est bien. Eh ouais, après, la sécurité, c'est vrai que c'est la sécurité, le toit, ouais. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, la sécurité, c'est un besoin fondamental de l'homme. C'est vraiment un des besoins les plus primaires. Et on a tous besoin de sécurité. Et c'est normal de la rechercher. Parce qu'en fait, l'homme n'est pas très, très bien équipé pour durer dans un monde un petit peu hostile. Et on est tenté de chercher des sécurités matérielles. On est tenté de chercher la sécurité au travers de certaines tactiques avec nos propres forces, avec notre propre intelligence. Et là, nous avons un Dieu qui nous dit, d'accord, vous pouvez réfléchir à une sécurité extérieure, vous pouvez réfléchir à une sécurité matérielle, ce n'est pas interdit de construire une maison, de contracter des assurances, mais la meilleure assurance, c'est moi. C'est moi le Seigneur qui vous ai sauvé en Jésus, qui vous ai appelé et qui vous régénère par mon esprit. C'est moi qui suis votre assurance parce que vous pouvez être en contact permanent avec moi. Je vous vois à chaque fois, hein, partout, tout le temps, quand vous péchez, quand vous péchez pas. Je suis tout le temps là, donc en fait, c'est même pas la peine de vous cacher, hein. Ce serait un peu stupide. Prenez-moi comme assurance. Je suis tout puissant. Mais être tout puissant, c'est pas mal quand même. Non, c'est vrai quand même, c'est plutôt sympa d'avoir comme ami quelqu'un qui est tout puissant. Je sais pas, moi à l'école, j'étais pas bien grand et ça n'a pas beaucoup changé. Et j'avais souvent des amis qui étaient grands et baraqués. C'est plus sympa quand même à l'école. D'avoir des amis grands et baraqués. C'est, voilà. Et en fait, nous, en fait, en tant que chrétiens, on a un ami qui est bien grand et bien baraqué. N'est-ce pas? Rien n'est plus sécurisant qu'un Dieu souverain. Et du coup, si nous savons que notre Père, il nous aime et il est tout puissant, même quand nous passons par des difficultés, même quand ça va mal, eh ben on peut quand même être tranquille. On a le droit de pleurer quand même, hein, mais on peut quand même être tranquille parce que nous savons que rien ne lui échappe. La situation, même douloureuse, même incompréhensible, nous savons qu'elle est sous son contrôle. Et que du coup, même si nous avons le droit de pleurer, d'avoir peur, tout ça, on a vraiment le droit d'avoir ces sentiments-là. Je ne cherche pas du tout à les réfréner, mais nous savons que le Seigneur prend soin de nous. Et ça, c'est génial. C'est ce qui a changé ma vie, hein. C'est l'histoire de ma conversion, ça. Alors, je pense qu'il faut vraiment que nous évitions de mettre notre confiance en d'autres choses. En tout cas, une confiance excessive en d'autres choses ou en d'autres personnes. Même si nous sommes anxieux, par exemple. Moi, je ne le suis pas, donc. Mais je connais des personnes qui sont anxieuses et qui aiment bien, mettre 4 ou 5 couches de sécurité pour tous les trucs, quoi. Pour qu'il n'y ait aucun imprévu qui arrive, comme ça, ça va, on a le temps de voir venir. Et je comprends, hein, cette personnalité-là. Mais n'empêche qu'il faut quand même réfléchir. Quand on a besoin, comme ça, de mettre des couches de sécurité successives, est-ce que c'est pas non plus un peu un manque de foi? Nous avons souvent, c'est la dernière application, une vie cloisonnée. Et on voit que le peuple d'Israël avait une vie cloisonnée. Un peu un côté, bon, alors, d'accord, Dieu, voilà, machin, moi je suis roi d'Israël, et bon, la politique, c'est la politique, quoi. Donc, il y a le côté religieux, d'accord, puis il y a le côté, la réelle politique. Et en fait, ça n'a rien à voir, les deux, hein, séparation, église et l'État, tout ça. Enfin, à l'époque, ils disaient pas comme ça. Mais en gros, c'était, voilà, moi, mon boulot droit, c'est de contracter des alliances, et donc Dieu, dans l'équation, il n'est pas là, quoi. Et souvent, on a un petit peu tendance à dire, voilà, il y a le côté spirituel, et là, pour le coup, voilà, on est très, très fervent, tout ça, on est très croyant. Puis pour d'autres domaines, on se dit, non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et du coup, on oublie. On oublie qu'il prend soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Et qu'il peut mettre son nez, il a son avis pour tous les autres domaines de notre vie. Et on n'a pas à l'exclure d'un domaine ou d'un autre, comme s'il y avait des domaines dans la vie qui étaient moins spirituels. Dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Rien n'échappe à son regard. Donc, c'est pas la peine de l'exclure. La foi sans les œuvres est morte. La foi qui n'est pas mise à l'épreuve est faible. Pierre, dans sa deuxième épître, hein, nous dit, voilà, les épreuves, c'est au fond plutôt une bonne chose, parce que ça sert à renforcer notre endurance, notre persévérance, notre foi. Donc ne cloisonnons pas notre vie, et rappelons-nous, hein, voilà, n'excluons pas le Seigneur de certains domaines de notre vie. Il nous voit tout le temps. Et parfois nous avons la naïveté de croire que non. Mais remettons-lui toute notre vie, et surtout, regardons-le agir. Et vous voyez, le Seigneur est très bien, parce qu'en fait, il dit aux Judéens à l'époque de Malachie, mais mettez-moi à l'épreuve. Regardez ce que je vais faire. Voilà, prenez le risque de me faire confiance, et vous allez voir ce dont je suis capable. Et en fait, il est totalement ouvert à la concurrence, hein, aux pubs comparatives. Il dit, mais allez-y, faites-moi confiance et vous allez voir par rapport à vos autres sécurités ce que je vais faire. Et ma théorie, moi, c'est que souvent, on ne voit pas tellement de miracles, on ne voit pas tellement de choses extraordinaires de la part de Dieu, mais c'est uniquement parce qu'on ne prend pas de risques. Étant donné qu'on a tout ce qu'il faut, hein, on est bien confortable, on a toutes les sécurités, c'est pas Dieu, en fait, nous dit, vous n'avez pas besoin de moi, donc moi, je n'agis pas. Hein. Alors que, je sais pas, dans pas mal de pays où les chrétiens risquent leur peau ou s'ils s'exposent, là, ils voient des choses assez extraordinaires, parce qu'ils prennent des risques. Ils n'ont plus de sécurité. Leur seule sécurité s'appelle Jésus. Alors que notre seule sécurité soit Jésus. Amen.